Bienvenue sur Bip Bip. Je suis Alexandre, doctorant en psychologie sociale et entrepreneur. J'ai lancé ma thèse alors que j'étais au chômage et aujourd'hui je la finance grâce à des missions de recherche, de formation et de conseil. Ce podcast de Build It Public est là pour te montrer l'envers du décor de mon autofinancement de thèse, mais surtout t'inspirer, te motiver et te partager ce qui a marché, ou pas, dans mon parcours pour que tu puisses avancer toi aussi dans l'entrepreneuriat, le doctorat ou comme moi, les deux en même temps. Pour cet épisode de rentrée, un sujet s'est imposé comme étant le plus pertinent, c'est celui de la préparation à ma rentrée. Et j'ai envie de te raconter cette semaine comment je me suis préparé pour cette rentrée. Alors déjà, pour mettre dans le contexte, je suis donc doctorant entrepreneur, donc j'ai deux rentrées. La première, c'est celle de la thèse. Alors, en quoi c'est une rentrée? Eh bien, en fait, beaucoup de chercheurs et de profs prennent des vacances. Et donc, j'ai beaucoup moins d'activités. J'ai aussi pas de cours parce qu'il n'y a pas de cours qui sont donnés. Donc, globalement, quand on fait une thèse, on peut se permettre d'avoir une pause pendant l'été, même si généralement les thésards ne la prennent pas. Mais voilà, il y a au moins quelques semaines qui sont prises. Il y a au moins un ralentissement qui est fait parce que la vie de recherche et la vie académique qui est ralenti. Donc moi je suis pas mal dans ce rythme académique et en plus à côté donc je fais notamment de la formation. Bon, je fais aussi de la recherche à côté, mais dans la recherche il y en a aussi beaucoup qui partent l'été, donc il y a une pause qui se suit quand même. Et puis les projets de recherche que je suis, il y en a un qui est dirigé vers des étudiants qui sont aussi en vacances. Donc bref, force est de constater que l'activité est plus calme en juillet-août, comme tout le monde et comme dans tous les domaines. En revanche, c'est quand même le moment de travailler et je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer comment j'ai préparé ma rentrée et surtout comment j'ai quand même réussi à me reposer tout en travaillant. Voilà un petit peu près, un peu près plutôt, l'ordre du jour. Je pense que c'est un podcast qui ne sera pas forcément long, mais il en faut aussi. Alors, j'ai une rentrée donc qui est académique, mais j'ai aussi une rentrée qui est donc pour les formations et pour la recherche. Mais même aussi le conseil, dans tous les cas, tout le monde part en vacances. Mais dans la formation aussi, eh bien, y a beaucoup de choses qui repartent en septembre. Généralement, le parcours en formation, c'est que moi, je suis dans la santé, les hôpitaux, mais en fait, en général, les organisations se réveillent en septembre, revoient leur budget, se disent « Ah mince, il y a des bouts de budget qu'on n'a pas utilisés » parce que généralement, c'est des budgets qui sont alloués à la formation. Et des projets de formation se lancent à partir de septembre parce que les gestionnaires se réveillent et se disent « Bon, on a encore X 1000 euros pour former, eh bien, on essaye de relancer tout ça. » Donc généralement, il y a un rush final de septembre à décembre pour finaliser des formations. Donc moi, j'ai un vrai effet de rentrée en septembre, comme dans beaucoup d'activités, hein, mais je voulais t'expliquer en quoi c'est le cas pour moi. Et donc, étant donné que je finance ma thèse, y a une organisation qui est différente que d'un simple entrepreneur et ou d'un simple thésard, même si les deux pourront se reconnaître dans mon discours, mais c'est le moment pour moi de t'expliquer du coup comment je fais. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur mes vacances. Il faut savoir que j'ai plutôt tendance à ne pas savoir prendre de vacances et à revenir fatigué, ou alors avant de prendre des vacances, quand j'étais au bout du rouleau, à me forcer à ne rien faire, à être frustré, etc. Pour détailler, avant mes vacances, mais je l'ai déjà dit dans les saisons dernières, donc je vais faire rapide, mes vacances avant, c'était forcément ne rien faire et ne pas travailler. Du coup, je suis frustré de ne rien faire et de ne pas avancer. Je passe pas de bons moments parce que tout ce qui est productif ou tout ce qui fait travailler mon cerveau, je me l'interdis. Ce qui fait que je reviens stressé, sans vraiment avoir l'impression d'être reposé, parce que finalement, me reposer, c'est aussi de m'activer le cerveau, et ça, je m'en suis rendu compte. Et j'ai pris du retard sur mes projets. Donc, j'étais dans une sorte de cercle vicieux où soit je travaille à fond, soit je prends du retard pour ensuite reprendre à fond. Et c'est là où j'ai compris, à l'aide d'un psy, que c'était pas un fonctionnement qui était recevable par rapport à qui j'étais. Encore une fois, je te transmets des choses qui sont pour moi, que j'ai compris moi, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'inspirer, mais je te recommande évidemment de trouver ce qui est bon pour toi. Et si ce qui est bon pour moi est bon pour toi, tant mieux. Sinon, peut-être que tu peux réfléchir à à la réflexion, à la manière de prendre en charge, enfin, à la manière que j'ai de prendre en charge mes problématiques pour trouver ta propre problématique. Mais évidemment, ce n'est pas un guide, ni une séance de thérapie masquée. Donc, moi, en tout cas, j'ai du mal à faire une pause totale. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec mon psy et avec moi-même sur comment prendre des vacances pour me reposer et pour quand même garder une activité, pour me permettre de ne pas être frustré, et puis finalement pour continuer une activité que j'aime bien, parce que j'aime ma thèse, j'aime mon travail, et ce n'est pas des vacances pour moi de tout arrêter. Enfin, étant donné que je considère que je fais un peu un métier passion, le fait d'arrêter mon métier, c'est d'arrêter ma passion, donc je passe un mauvais moment. Donc ce que j'ai compris maintenant, c'est que des vacances, pour moi, ça peut être du mi-temps, mais en fait, je ne compte plus mon temps de travail, donc ça peut être du mi-énergie. C'est-à-dire faire moins de choses que j'aime moins et me permettre un peu plus d'aller au-delà des critères que je me donne, c'est-à-dire pas forcément travailler tous les jours, me laisser d'autant plus de temps de repos quand je le sens et voilà, avoir un rythme un peu plus lent. C'est-à-dire, si en pleine période, je suis. Bon, avant, j'étais à 120%. Maintenant, imaginons que je suis à 80-100%. Eh bien, sachant que 100%, c'est fondamentalement une erreur. Hein. Ce n'est pas que je me tire au flanc. C'est que j'ai compris qu'on ne peut pas être à 100% pendant 365 jours. Donc, si on veut tenir sur la durée, il faut plutôt viser du 80-90% d'énergie. Sinon, on ne tient pas longtemps. En tout cas, moi, je n'ai pas tenu longtemps. Et crois-moi, si tu es comme moi il y a 1 an et demi et que tu entends ça et que tu dis oui, mais moi, je vais tenir, c'est exactement ce que je me disais. Et on finit tous par tomber. C'est ce que les gens me disaient avant que je ne les croie pas et que je tombe moi-même. Mais c'est une question de temps, malheureusement, si on est tout le temps à fond. Donc maintenant, j'ai appris à viser. Bon, je me retrouve toujours dans des 100%, je me retrouve toujours dans des 120%. Ça existera toujours, je pense, malheureusement. Mais disons qu'en vacances, je me permets d'être entre 50 et 80%, là où en période de rush, donc probablement dès septembre, je suis entre 80 et 100. Quoique, je crois que j'ai trouvé une manière d'être toujours à 80% et même de ne pas vraiment avoir l'impression de travailler. En tout cas, c'est la conséquence de beaucoup de choses que j'ai transmises dans ce podcast. Et si tu me suis ou si tu as envie d'aller voir les précédentes saisons, tu peux voir que je suis vraiment passé de un contrôle freak, quelqu'un qui compte ses heures, qui compte ses pauses, alors qu'il travaille tout seul, à un travail beaucoup plus fluide, à ne pas compter mes heures dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je ne compte pas les heures de travail, je compte les objectifs et ce que je dois faire. Je ne sais pas combien d'heures ça me demande par semaine parce que je ne les regarde plus et c'est un point positif pour moi. Attention, c'est peut-être pas un point positif pour toi parce que peut-être que si tu ne comptes pas, tu fais 90 heures et tu vas te cramer. Moi, je sais que c'est pas 90, mais sincèrement, je ne sais pas et ça me fait du bien de ne pas savoir parce que j'ai enlevé toute cette pression et ce stress de me dire je travaille, donc c'est compliqué. Et même pour ressentir le travail, il faut que ce soit dur, donc il faut que je me réveille tôt. Enfin voilà, moi j'étais dans tout ce sujet-là. Pour avoir l'impression d'être efficace, il fallait que ce soit compliqué. Mais en fait, on peut très bien mettre en place des systèmes dans sa vie pour que le travail soit simple. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas si c'est simple. Ça veut juste dire qu'on a mis en place et qu'on s'est organisé, enfin qu'on a mis en place des choses et qu'on s'est organisé pour que notre travail soit le plus digeste possible. Bref, donc voilà pourquoi toutes ces réflexions m'ont amené à m'organiser pour travailler pendant les vacances. Alors, j'ai des choses très opérationnelles à te dire, voilà ce que j'ai fait pendant ces vacances. Et j'ai aussi plutôt quelque chose autour de la philosophie de mes vacances, du coup. Alors, je vais commencer par la philosophie que j'ai commencé à transmettre. La philosophie, c'est de se dire que, je l'ai dit, il me semble, la semaine dernière, tout est une question de gestion d'objectifs et d'énergie. Et de, oui, d'objectifs et d'énergie. Je mobilise l'énergie nécessaire à l'objectif qui m'est donné. Je ne vais pas m'étendre parce que je l'ai déjà transmis. Mais donc, quand je suis en vacances, je décide de mobiliser moins d'énergie et ou, mais le mieux c'est que ce soit et, d'avoir des objectifs amoindris. Et en fait, j'ai fait le point sur quels étaient mes besoins, notamment la solitude, notamment du sport, notamment bien manger, mais aussi la productivité. Et je me suis organisé, encore une fois, à la tâche, en me disant cet été, j'aimerais faire ça, 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 et je l'organise dans le temps, comme je le sens, en mettant un certain degré de priorité sur des choses personnelles. C'est-à-dire que si en septembre, un ami me propose de faire une fête un jeudi soir, peut-être que je lui dirais non. Et bah, disons qu'en vacances, le côté perso gagne en degré d'importance. Et que si un ami me propose de faire une fête un jeudi soir, je vais peut-être plus dire oui. Et je vais m'organiser. Je sais que le vendredi matin, peut-être que je travaillerai pas. Et du coup, je travaillerai le vendredi après-midi, peut-être le week-end, etc. Encore une fois, dans la philosophie, je n'ai pas de jour férié, je n'ai pas de week-end. Il y a une règle que je me donne parce que dans tous les cas, ça ne sert à rien chez moi, ça ne fonctionne pas, c'est que je ne travaille pas le soir ni la nuit. Quand je dis le soir, c'est que, allez, si vraiment je suis à fond, mais crois-moi, c'est rare, hein, je ne vais pas faire de ceux qui disent qu'ils travaillent à 5 heures du mat tous les jours. Moi, au max du max du max, c'est 21h, 21h30, mais globalement, après 19h, 19h30, je ne travaille plus. Donc, on va dire que mes plus grosses journées sont probablement du 9-19, avec une pause pour manger, avec une pause de sport, mais en 7 jours sur 7. Donc, je ne dis pas que je fais 9-19 en 7 jours sur 7, évidemment. Je fais, disons que j'ai des plages horaires de 9 à 19, 7 jours sur 7, et dans ces plages, je mets mon travail, je mets mon sport, je mets mes objectifs et je mets mon énergie. C'est-à-dire que si un mardi matin, j'ai besoin de dormir une heure de plus et de commencer à 10 heures, peu m'importe. Je ne me dis pas que je vais finir à 20h. Globalement, je suis dans cette grande plage horaire et je fais ce que je dois faire. Et c'est pour ça que des fois, il y a des samedis matins où je suis à fond, où je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive, j'ai un petit créneau où je me lève à 5h et je suis super en forme. Et bah, je fais 6h-14h. Et à 14h, j'ai un gros coup de barre, j'ai la digestion qui arrive et j'ai envie, je ne sais pas, d'aller à la plage. Et bah, je vais à la plage de 14 à 21 et je ne travaille plus le samedi. Donc disons que j'ai une plage horaire max de 9 à 19 en 7 jours sur 7 et que j'organise cette plage à la semaine et selon le jour. Il y a des choses que je dois faire certains jours et il y a des choses que je dois faire cette semaine et je le fais au ressenti. Par exemple aujourd'hui, et donc on rentre un peu dans les exemples précis de comment je prépare ma rentrée, aujourd'hui je devais faire quelque chose donc par rapport à un article et en fait j'ai eu des rendez-vous pro qui se sont très bien passés. J'avoue que ça fait un petit effet se reposer sur ses lauriers, ce que je ne me dis pas de faire. Mais du coup, je vais me donner quelque chose qui me donne un peu plus de plaisir. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de travailler plus sur ma communication, mes podcasts, mes posts LinkedIn, plutôt que sur un article scientifique. Parce que là, j'ai un peu l'excitation de cool, j'ai du business qui rentre, je suis excité, il y a plein de choses qui se passent, et je ne me sens pas dans l'énergie de lire un article scientifique et de relire à tête reposée, parce que voilà, je suis un peu en mode opportunité, excité aujourd'hui. Et bah, tout simplement, quelque chose que je devais faire demain matin, je l'ai mis cet après-midi, quelque chose que je devais faire cet après-midi, je l'ai mis demain matin. Faut savoir que je me mets à la place de moi qui écouterais ce podcast il y a un an et demi. En m'écoutant, je me dirais, tu sais juste pas, tu t'es juste pas assez discipliné, tu sais juste pas tenir ton agenda, et en fait, t'es désorganisé. Si t'es en train de te dire ça, j'aimerais te donner quelques arguments pour t'expliquer en quoi, selon moi, cette disposition est bien plus maligne que ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire non, aujourd'hui de 14 à 16, je dois travailler sur ça, je devais travailler sur ça. Alors, petit préambule, je pense que ce que je viens de te dire là, je dois travailler de 14 à 16 sur ça, je vais le faire. Je pense que c'est important de passer sur une étape comme ça pour se prouver à soi-même qu'on est discipliné, mais je pense que c'est inefficace sur le long terme. Pourquoi aujourd'hui je me dis, voilà ce que je dois faire cette semaine ou dans la journée et je l'organise selon mon envie? Parce que déjà, je sais que j'ai le moteur de avancer qui est présent. Je sais que si je me laisse cette liberté, je ne vais pas finir par jouer aux jeux vidéo toute la journée. Je sais que je finirai par faire les choses à temps. Mais parce que j'ai eu un moment ultra discipliné qui m'a poussé à me dire, c'est bon, je sais que je suis capable de répondre à mes objectifs. Maintenant, on va essayer d'être plus fluide parce qu'on va être plus efficace. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler parce que j'adapte mes tâches selon mes envies et selon mon énergie. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, mais je trouve que c'est possible dans la plupart du temps, et d'autant plus en vacances, parce que étant donné qu'il n'y a pas de prestations, mais que ton travail, c'est potentiellement quelque chose juste pour toi et ta boîte, tu t'organises comme tu veux. Donc, première raison du fait que je me sente en vacances, même si je travaille, c'est que j'ai l'opportunité d'organiser les choses vraiment à ma manière et de matcher avec mon énergie. Et étant donné que j'ai décidé de baisser mon énergie, eh ben, je décide parfois de ne rien faire cet après-midi, de décaler ça à demain, d'intervertir les tâches, parce que beaucoup de choses sont de mon ressort et donc je les organise comme je le souhaite. Voilà pour la philosophie de l'organisation en vacances. Maintenant, je vais pouvoir te parler de concrètement ce que j'ai préparé pour préparer ma rentrée. Ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu es dans le rush, la créativité, c'est compliqué et la communication, c'est compliqué. Maintenant, moi, j'ai vu que LinkedIn, ça marche bien pour moi. Quand je suis actif sur LinkedIn, j'attire des clients. Il y a des clients qui viennent me contacter pour dire, est-ce que tu veux travailler avec moi? Il faut savoir que des clients entrants comme ça, où on n'a pas besoin de démarcher, c'est de l'or. Parce que tout simplement, bah, c'est le business qui vient tout seul de lui-même. Et donc, c'est ce qu'on peut viser. En tout cas, moi, je me dis toujours qu'il faut que je garde cette force de communication LinkedIn, parce que c'est un poumon commercial qui est magique. Parce qu'en plus, quand on essaye de trouver son style et de transmettre des idées qui nous intéressent, eh ben, en fait, on a un peu l'impression que c'est des clients gratuits, parce que moi je dis juste des trucs que j'ai en tête. J'ai la petite satisfaction d'avoir des petits likes, etc. Ça fait toujours du bien à l'ego. Et en plus, une fois tous les mois, eh ben, y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Moi, j'ai déterminé en tout cas que dans mon activité, c'était LinkedIn était important. C'est ma vitrine, j'ai pas de site. Donc si tu veux en savoir plus sur moi, tu vas sur LinkedIn. Et eh bien, il faut que je maintienne une communication, chose qui était pas bien ces derniers temps. Donc, ce que je me suis dit ces vacances, c'est que on arrête de produire au jour le jour, on fait comme tout le monde, comme les youtubeurs, comme ceux qui sont sur Instagram, comme évidemment les grandes boîtes, on fait des plans de communication et on prévoit des communications à l'avance. Donc, premier point à préparer avant ta rentrée, c'est ta communication. Profite de ton été pour faire des posts LinkedIn, des posts Insta, des vidéos, des shorts. Pour te dire que au moins ton mois de septembre, si ce n'est septembre-octobre, parce que peut-être fin octobre, début décembre, les gens relâchent un peu, tu as toute ta communication qui est pré-postée, qui est programmée, et tu sais que tu as 2 mois où tu vas avoir l'air actif sur les réseaux, mais tu n'auras rien à faire. Et quand je te dis ça, il faut pas que les. C'est peut-être ça le problème aussi d'ailleurs avec mon podcast, c'est que peut-être que les entrepreneurs se sentent pas assez doctorants et les doctorants se sentent pas assez entrepreneurs. Si tu es en thèse, je sais que logiquement, en tout cas en sciences humaines, parce que je ne vais pas dire que je connais l'ambiance de toutes les thèses, en sciences humaines, logiquement, tu as quand même un moment de répit. Et j'estime, et je pourrais le défendre largement, que tenir son LinkedIn, c'est même important pour les doctorants. Ça permet de trouver des partenariats, ça permet potentiellement de t'associer avec des chercheurs. Moi, j'ai vu là cette semaine sur LinkedIn, j'ai répondu à un commentaire, j'ai d'une personne qui a transmis un article scientifique. Et bah, j'ai juste répondu à cet article en disant que c'était un bon article. Et l'auteur de l'article m'a remercié. Je lui ai demandé son mail et j'ai en contact cet auteur. Donc, si tu es juste doctorant, le fait d'avoir un LinkedIn peut te permettre de décrocher aussi des partenariats à l'international. Imagine que ça aboutisse à un in-doc, à un post-doc, à un stage. Le réseau t'aidera dans tous les cas. Et puis évidemment, ça t'aide aussi à valoriser tes études, donc potentiellement d'écrire un article qui soit lu par plus d'une personne. Je te glace pas, hein, j'ai peur que ce soit le cas de mes articles, hein. Mais il faut que, enfin, ça peut être intéressant que ce soit lu parce que ça peut être aidé. Donc, tu peux te rapprocher d'associations qui sont d'associations ou d'entreprises qui sont autour de ton sujet. Ça peut te faire rentrer un petit peu de sous parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont te demander des interventions, des choses comme ça. Et en plus, tu prépares ton avenir parce que malheureusement, le fait d'être connu, reconnu sur les réseaux aujourd'hui a un impact dans tout milieu. Et si tu es connu et reconnu et que demain tu dois postuler à un poste de maître de conférence ou même dans une entreprise. Et évidemment, je ne te pousse pas outre mesure à être auto-entrepreneur. Si tu veux être auto-entrepreneur, évidemment que tu as de l'avance si tu t'en occupes pendant ta thèse. Et même si tu veux être dans une carrière plus, j'allais dire normale ou logique, mais oui, dans une carrière plus normale, c'est-à-dire rester dans le public après ta thèse, eh ben, ce sera toujours positif. Donc même si tu es doctorant, Eh bien, c'est intéressant de te poser, et sincèrement, pose-toi un jour de ton été. Tu prépares 7 ou 8 posts LinkedIn en te renseignant, en regardant des gens qui sont proches de ce que tu fais, en essayant de te dire je transmets un article scientifique de mon domaine, je transmets une compétence, je transmets. Bah, je vais peut-être. Tiens, je vais te donner directement ce que j'ai préparé comme post LinkedIn. Comme ça, tu sauras tout de suite comment j'ai préparé ma entrée précisément sur les posts LinkedIn. Alors, voici les posts que j'ai préparés. Je ne vais pas te les lire, évidemment, mais je vais te donner comment je m'y prends pour avoir trouvé des sujets. Le premier, c'est que je voulais mettre en avant le fait que je fasse des entretiens. Et donc, je parle du fait que cette année et cet été, j'ai mené des entretiens. Voici les quatre techniques qui fonctionnent le mieux. Ensuite, j'ai parlé de quelque chose que mes clients ne comprennent pas. C'est le fait qu'ils veuillent que je sois forcément spécialisé dans la formation, enfin dans leur domaine, c'est-à-dire spécialisé dans le dentiste, etc. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui peut étonner? Ou quels sont les retours fréquents que j'ai de mes clients pour essayer de leur apprendre quelque chose. Donc ça aussi, tu peux t'en servir pour dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux transmettre à mes clients comme une réponse de choses qu'on me donne souvent. Ensuite, je me suis dit, bah, quels outils j'ai, qu'est-ce que je peux transmettre, comment je m'organise et est-ce que je peux transmettre de la valeur. Bah, en fait, je sais que j'ai un fichier Excel qui m'aide bien à organiser mes tâches. Je me suis dit, bon, bah, ok, je vais le mettre en avant. Donc là, la réflexion, c'est est-ce que j'ai un outil ou une technique que j'utilise dans mon métier ou dans ma thèse qui peut être intéressant à transmettre. C'est un petit peu le cas aussi. Plutôt organisationnel, c'est bah, comment je m'organise, est-ce que je peux le transmettre? Moi, eh bien, j'ai eu aussi une idée pour être aller contre le multitasking, donc je vais le mettre en avant. Ensuite, j'ai pensé à ce que j'ai fait cet été et si je pouvais transmettre quelque chose. Et en fait, j'ai pensé à une petite anecdote qui est que j'ai utilisé ChatGPT pour discuter. D'ailleurs, je vais t'en parler aussi hein, plus en détail. Donc, j'ai envie de raconter cette anecdote. Ensuite, il y a une discussion que j'avais eue qui est partie d'une blague et qui m'a inspiré un post. Ensuite, je me suis dit quelles sont les compétences qui sont sous-estimées pour financer sa thèse. Là aussi, tu peux réfléchir à quelles compétences tu as. Soit tu la transmets directement dans un artifice comme ça, genre les trois compétences les plus importantes pour un doctorant, ou soit tu en tires une en disant, par exemple, moi, là, une des compétences, c'était le fait de s'organiser. Bah, en quoi je suis compétent pour m'organiser ou même pour faire des entretiens? Bah, je vais donner deux, trois techniques que j'utilise dans ce sens-là. Et enfin, bien, je vais faire un post sur cet épisode-là, comment j'ai préparé ma rentrée, et je vais juste expliquer comment j'ai préparé ma rentrée. Donc, réfléchis à ce que tu as fait ces derniers temps, réfléchis à tes compétences, réfléchis à tes petites techniques. Réfléchis au retour que tu as, aux critiques, aux réflexions qu'on te donne. Et s'il y en a deux, trois qui te le donnent, ça fait peut-être un sujet. Voilà comment moi j'ai préparé 7, me semble-t-il, 2, 4, 6, 8 posts LinkedIn, ce qui me fait 8 semaines d'avance. Je vais les finir aujourd'hui et comme ça, c'est réglé. Donc, voilà comment j'organise ma rentrée. D'abord, c'est que je fais ce que j'ai du mal à faire quand je suis en période de rush, c'est-à-dire la communication et les épisodes LinkedIn. Les épisodes LinkedIn. Non, mais justement, j'ai fait un mélange. Les posts LinkedIn et les épisodes de podcast. Je voulais faire une transition qui est ratée, du coup. Mais du coup, deuxième chose que je prépare, c'est les podcasts. Et donc, je suis dans le désarroi le plus total de te dire que je vais de plus en plus arrêter d'enregistrer semaine après semaine mes podcasts. Ils vont toujours être publiés tous les lundis. Mais je vais essayer d'en faire certains d'avance parce que c'est dur de suivre le rythme, notamment quand on est en rush. Et donc là, enregistrer 8 épisodes de podcast d'avance, sincèrement, c'est compliqué parce qu'il faut les sujets et que quand même, j'ai envie que ça reste et c'est un podcast de réaction à ma vie. Donc, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Et généralement, quand j'ai l'énergie de défendre un sujet, c'est bien plus simple de faire un épisode plutôt que de prévoir des sujets à l'avance. D'ailleurs, c'est j'ai même je n'arrive pas, et on va voir à quel point ça va être compliqué d'enregistrer plusieurs sujets d'avance, parce que généralement, quand je te partage un sujet, c'est parce que j'y ai réfléchi, c'est parce que je le vis, et j'essaye vraiment de te dire, ah bah tiens, cette semaine, il y a vraiment ce truc-là qui m'a pris la tête et qui fait partie de ma vie, voilà ce que je peux te transmettre. Mais pour m'organiser, on va essayer d'en avoir en avance, donc j'aimerais en avoir 5, ce qui me fait 5 semaines, comme ça je me dis que Niveau communication entre LinkedIn et les podcasts et les formats courts hein, que je vais faire aussi aujourd'hui, j'ai globalement 1 à 2 mois d'avance où pendant 1 ou 2 mois, je ne m'occupe pas de ma communication, mais elle est lancée. Et donc, tu te sens utile et tu te dis en septembre, je me laisse le temps pour mes cours, mes formations et potentiellement ma thèse. En parlant de la thèse, ce que je fais aussi pour me préparer, eh bien, c'est d'avancer sur ma thèse. Là, ça parlera plutôt au thésard et ou au thésard entrepreneur si vous m'écoutez. Déjà que. Bon, je vais arrêter de dire à chaque épisode que vous n'êtes pas beaucoup. C'est frustrant pour ceux qui m'écoutent. Merci d'être là. Donc, pour les thésards entrepreneurs ou les thésards tout court, eh bien, évidemment que j'avance sur ma thèse. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est la rédaction. En tout cas, moi, de toute façon, c'est quelque chose qui me détend. C'est quelque chose que j'aime bien. Et le fait d'avoir l'opportunité de voyager, quand je dis voyager, attention, t'as pas besoin de gagner 5 000 euros pour voyager. C'est, imagine, tu vas chez tes parents, tu vas chez un copain, tu fais une semaine en camping, des trucs comme ça. Et bien, ramener ton PC et te prendre un matin, 2 heures pour relire un article ou pour écrire un bout d'article ou pour écrire un bout de ta thèse. Moi, je trouve que c'est très efficace. Après, je pense que chaque thésard est différent. Chaque thésard commence à se connaître. Mais si ça peut t'inspirer, moi, je trouve que le fait de bouger, de changer d'air, ça ramène de la créativité. Et je trouve que la créativité, je le défendrai toujours, est essentielle dans la recherche, notamment dans la phase d'écriture, parce que tu as plein de trucs dans ta tête. Et la créativité, c'est savoir décider de la bonne histoire, des bons mots à utiliser pour transmettre une idée complexe. Et je trouve que ça renvoie très précisément à la créativité dans la recherche. Donc l'été, en préparant ma thèse, généralement j'écris. Je pense que c'est le moment aussi pour toi de réfléchir à ton sujet de thèse, de réfléchir à un protocole, tu vois, à des choses où il faut se projeter, des choses qui sont complexes, ou quand tu es dans le rush et que tu as 8 projets en même temps, tu n'y arrives pas. Mais quand tu prends quelques jours, que tu es à la plage et que tu prends ton sujet de thèse, globalement, je trouve que c'est le moment en fait de faire un pas de recul. Et en fait, ce pas de recul, je trouve que quand tu rédiges, quand tu écris ou quand tu te projettes vers une étude, c'est là où il est le plus efficace parce que tu relis ce que tu as fait, tu relis ce que tu as pensé, tu te dis, ah non, là, il y a un truc qui est bizarre. Donc, je trouve pas que c'est le moment pour faire des analyses, mais ça se trouve, c'est très personnel. En revanche, je trouve que c'est le moment de prendre de la hauteur sur ton article, de le lire de A à Z et d'essayer de le recomprendre d'une autre manière et peut-être que tu vas avoir d'autres idées, de revoir ton projet de thèse ou de revoir un protocole. Mais donc, et potentiellement de lire, hein, je pense que c'est aussi la bonne occasion de lire parce que déjà que moi j'ai du mal à lire, j'avoue, je lis de manière très compulsive et je lis de manière très dirigée pour ma thèse, mais j'ai pas la lecture plaisir, j'ai pas la lecture de A à Z que certains peuvent avoir. En revanche, je pense que c'est un bon moment de dire, allez, cet été, j'en sais rien. Bon, je vais arrêter d'utiliser des exemples de psycho. Imaginons que je suis un historien, sauf que je vais montrer toutes mes lacunes en histoire. Eh bien, allez là, j'ai envie de pousser la période 1800 à 1810 en France. Eh bien, je vais lire que sur ce truc-là. Et même si, oui, je vais lire un peu plus ou ça va pas être aussi dirigé que des lectures, eh bien, en fait, c'est des vacances qui restent productives et je trouve que c'est le moment d'avoir un temps long et des activités un peu plus longues pour revenir à la rentrée sans avoir rien fait. Donc, moi, ce que j'ai fait cet été, c'est que il fallait que je finalise des articles et donc j'ai avancé sur ces articles. Ça me fait penser que une manière de me sentir en vacances aussi, au-delà de mieux gérer mon énergie, de me permettre un peu plus de fluidité et de pause que d'habitude, c'est aussi que moi j'ai bien aimé avoir qu'un seul projet. Enfin, quand je dis qu'un seul projet, je suis en train de te dire plein de trucs, mais je veux dire une liste beaucoup plus courte de choses à faire, c'est-à-dire si tu peux résumer ton été en une phrase ou en une liste de 3 points, c'est cool. Parce que tu te dis, cet été, j'ai juste à avancer sur cet article. En fait, de te donner un gros objectif sur une grande période de temps, comme ça, tu ne te dis pas, j'ai 1 000 trucs à faire et tu te sors du côté super stressant d'avoir beaucoup de choses à faire, mais tu te dis, cet été, je lis sur tel sujet, par exemple, ou cet été, je finis cet article. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans tous les cas bon à faire, même en période de rush, sauf que parfois c'est compliqué. Mais l'été, vu que tu as le temps, moi je trouve que c'est cool de dire, OK, niveau business, je finalise ma communication, niveau thèse, je finalise cet article. Et dans tout le chaos que peut être ton été, eh ben, tu t'organises au jour le jour pour avancer sur ces objectifs. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis organisé et que j'ai préparé ma rentrée. En dehors de la thèse, ce qui peut être intéressant aussi pour préparer ta rentrée quand tu fais des cours et de la formation, c'est tout simplement de faire le point sur tes diapos, de préparer tes diapos à l'avance si tu as déjà prévu des cours, et de faire en sorte d'arriver le 1er septembre avec tes diapos de prêt et ton inscription partout si tu fais des cours dans plusieurs structures et pas forcément dans ton université. Pour bah, te dire, j'ai juste à me pointer, à faire mon cours et bah, c'est réglé parce que généralement, en tout cas moi, hein, mon activité de doctorant entrepreneur, quand je fais des cours, si jamais j'ai mal prévu le fait de prévoir les, si prévu le fait de prévoir, c'est pas ouf, mais si j'ai mal prévu les diapos, eh bah, j'arrive en septembre en me disant j'ai le temps, sauf que là j'ai des clients qui me relancent, j'ai les chercheurs avec lesquels je travaille qui me relancent pour avancer sur ma thèse, etc. Et je suis totalement submergé. Donc préparer tout ce que tu sais qui va arriver. Ça me fait aussi penser pour le côté entrepreneuriat du fait que c'est le temps pour moi. En fait, je sais qu'en mars, donc c'est quand même dans 6 mois, je sais qu'en mars, je vais avoir beaucoup de travail, notamment de retranscription pour un projet qui va être fini. Et donc, c'est l'opportunité pour moi en août de me projeter, de faire des tests pour tester des retranscriptions et essayer de savoir exactement combien de temps. Imaginons, j'ai 120 retranscriptions à faire, j'en essaye 3 avec une méthode, et bah, je pèse la charge de travail que je vais avoir avec cette méthode-là. Et ça me permet de me projeter et d'organiser tout de suite en disant, OK, en mars, du coup, ça va me prendre 50 heures, donc soit je prends un stagiaire, soit je bloque 50 heures. Et c'est aussi le moment de te projeter vers des trucs qui vont te prendre du temps et de, si ce n'est pas, si t'as pas le temps ou t'as pas l'énergie de le faire cet été, de au moins se dire, OK, je fais un petit test, ça, je sais que ça va me prendre du temps. Et donc, c'est évidemment le moment de mettre les choses dans ton calendrier. Donc, je reviens sur la règle d'avant. Imagine que tu n'as pas le temps de faire tes diapos. Bah, c'est le moment de regarder tes cours et te dire, OK, là, je mets X jours, je le bloque sur mon agenda, je dois préparer ces diapos. Là, il faut que je fasse ça. C'est le moment de faire le point sur tous tes clients, tous tes projets, ce que tu dois faire, et d'arriver avec un calendrier qui est précis, une to-do list qui est complète pour partir sur de bonnes bases. En tout cas, moi, c'est en plus des choses que j'aime bien faire. Et donc, évidemment, pour finir, et je ne vais pas m'étendre parce que finalement, l'épisode est un peu long, eh bien, c'est aussi le moment de t'organiser administrativement et de manière comptable. C'est le moment de prendre du temps pour te projeter, pour dire bah, où j'en suis sur mes seuils TVA, où j'en suis sur ma compta, où j'en suis de manière administrative. Et si je devais changer, enfin voilà, c'est aussi le moment de t'intéresser à investir, de t'intéresser à changer de structure juridique. En fait, c'est le moment de, pour une fois, penser à tout ce dont tu n'as pas le temps de penser, c'est-à-dire tous les à côté et comment te développer. Moi, je trouve que cet été a été un bon exemple pour moi et je le referai de cette manière-là parce que c'est le moment où je ne fais pas, j'ai pas fait plus de 5 jours de pause. J'ai fait que 5 jours de pause et après c'était plutôt 2-3, 2-3, ou juste des après-midi, etc. Mais j'ai quand même réussi à trouver cette liberté d'esprit, de réflexion et de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'organiser? Quelles nouvelles prestations j'ai envie de développer? Voilà, tu vois, c'est toutes ces choses-là auxquelles tu peux penser en été pour arriver en septembre, potentiellement avec une nouvelle offre, une nouvelle prestation ou une nouvelle idée de où tu vas pour avoir ce dernier rush-là, septembre, octobre, décembre, qui en tout cas dans la formation. Et dans la formation et quand tu fais des cours à la fac, et évidemment un petit rush. Et donc là, tu sais que tu te lances pour 2-3 mois carré parce que tu as gagné du temps, parce que tu as proposé, parce que tu as préparé de la communication et tu es dans les starting blocks parce que tu sais ce que tu dois faire, tu sais le temps que ça va te prendre. Et aussi, dernière chose, tu as organisé tes fichiers. C'est-à-dire que moi, allez, par exemple, je suis assez organisé sur mon PC, mais bon, là, ces derniers temps, quand je téléchargeais des trucs, je les re-rangeais pas. Au lieu de mettre les choses dans les sous-sous-sous-dossiers, je mets juste les choses dans les dossiers. Imaginons, j'ai un truc dans Compta, mais au lieu de le mettre dans Compta 2025, je le mets juste dans Compta. Donc, c'est le moment de remettre les choses au clair pour repartir dans un environnement virtuel propre. Et enfin, dernier truc, je sais que ça fait plusieurs fois que je dis dernier, mais j'ai des idées qui me viennent. Mais celle-ci, c'est vraiment la dernière. Dernier truc, c'est pourquoi pas se constituer une bibliothèque de ce que tu as fait. Par exemple, si tu fais de la formation, bien remettre au clair les diapos que tu as utilisés cette année, d'un côté, pour que ce soit plus facile de les réutiliser quand ça vient, et que si en septembre, quand tu es en plein rush, il y a un client ou une fac qui te dit bah, est-ce que tu peux me faire une formation sur un truc, que tu ne mettes pas 3 heures à chercher, mais que tu aies bien tout concaténé à un endroit. Pareil pour les mails, tes mails de relance, les mettre à un endroit et te dire je sais que si je dois refaire une salve de 100 relances pour trouver des clients, ok, j'ai tout réorganisé. Et donc, avoir une sorte de bibliothèque de ce que tu fais, que ce soit dans ta communication ou que ce soit dans tes prestations, pour ressortir les choses de manière plus carrée. Voilà comment j'ai préparé ma rentrée. C'est quelque chose qui n'est pas fini, hein. Il me reste encore des jours pour finaliser. C'est aussi des choses où je ne vais pas être parfait, mais c'est ce que je vise et c'est ce à quoi j'ai pensé pour te transmettre aujourd'hui comment préparer ta rentrée. Il me semble que l'épisode sort à peu près au moment de la rentrée, donc j'espère que tu as fait ça. Sinon, j'espère que ça t'inspirera. Peut-être que ton rush va pas commencer tout de suite en septembre, donc c'est le moment de t'inspirer de ce genre de choses. Et puis, bah voilà, j'espère que ta rentrée va bien se passer. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Sinon, je te souhaite une excellente semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.